sur Radio B, Résonance, Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas, ou ce qui ne se voit pas, pardon. Parler, écrit Maurice Blanchot, c'est reconnaître que la parole est nécessairement plurielle, fragmentaire, capable de maintenir par-delà l'unification toujours de la différence. Fin de citation. La pluralité instaure une relation, mais cette relation n'est pas une relation d'unification ni d'uniformisation. C'est qu'il y a plusieurs langues sans qu'aucune d'elles puisse être envisagée comme primordiale et référentielle. L'émission d'aujourd'hui désire, chers auditeurs, à travers les différents invités que vous pourrez entendre tout au long de celle-ci, mettre en avant que la parole est nécessairement plurielle, comme l'écrit Maurice Blanchot, diverse, multiple, hétérogène, et que c'est bien justement ce côté pluriel, métisse, qu'il nous faut essayer de cultiver, de faire exister à chaque instant. À travers cette polyphonie de paroles, de points de vue, de couleurs de voix, de modes de dire, je vous propose d'accueillir tout au long de cette émission et d'accueillir toutes ces paroles et d'ouvrir aussi les yeux sur le monde et sur l'humain. Tenter de le penser, écrit le philosophe Alexis Nouss, c'est accepter qu'il ne soit qu'un agrégat de singularité, un enchaînement irrégulier de discontinuité, de disjonction. Cela appelle les notions d'articulation et d'approximation. L'articulation est la connexion qui permet de relier des éléments sans les fixer en un ordre de classification équivalent à un tableau inerte et unificateur de différences, sans produire une génétique des altérités, une hétérogénétique. Fin de citation. Le métissage nourrit une attention constante et soutenue vers les autres, hors de soi et en soi. C'est à travers cette attitude que nous aurons dans quelques instants au téléphone une partie de l'équipe de rédaction de l'Écho de la Réhab, un journal élaboré au sein de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie à Privas. Et puis ensuite, vous pourrez entendre également s'exprimer une diversité de points de vue portés justement par quatre musiciens des percussions de Treffort à travers leurs billets d'humeur. Et vous aurez l'occasion d'entendre avec ces billets d'humeur Asma Aloui, Mathieu Convert, Dominique Bataillard, Christian Seux. Et puis, dans la dernière partie de cette émission, nous accueillerons une autre invitée par téléphone, Cécilia de Varine, chargée du développement culturel au Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de l'association ARHM à Lyon, pour le travail de création radiophonique réalisé par les membres de l'atelier Au fil des voix. Alors, Au fil des voix, V-O-I-X, mais aussi V-O-I-E-S. Et un cycle qu'ils ont imaginé cette année autour du thème manger. We'll be right back. résonance sur Radio B. Il n'y a rien de fixe dans les matières. Le multiple, il faut le faire. Et là, nous venons d'entendre un extrait de l'œuvre du compositeur argentin Martín Matalón, qui s'intitule « Del color a la materia ». Et là, nous avions entendu le prologue, « Les scorpions ». Et cette pièce était donc conçue pour 6 percussions, 2 pianos et dispositifs électroniques, interprétés par l'ensemble Batida, piano et percussions. Alors, juste quelques mots pour quand même évoquer ce qui a permis à Martín Matalón d'imaginer, bien sûr, cette pièce. Ça a beaucoup de liens avec le cinéma, puisque cette œuvre, qui a d'abord existé en 2002 sous le titre du Scorpion, avait été imaginée à partir du film de Buñuel, qui commence sur un documentaire à propos d'un animal. Et très vite, les scènes se succèdent, elles sont absurdes, subversives, blasphématoires, mais toujours avec une jubilation et dans un rythme cinématographique étourdissant. Et puis, Martín Matalón choisit en 2010 de retravailler sa partition dans le cadre d'une commande qu'il a reçue au concours international d'Orléans sous le titre justement « Del color a la materia » afin de réaliser une version de concert du Scorpion en retranchant certains éléments trop visuels à son goût et en modifiant légèrement l'instrumentation. Alors nous avons entendu ce prologue et tout à l'heure nous pourrons découvrir justement une autre facette de cette œuvre. Mais pour le moment, je vous propose d'entendre justement, j'évoquais en introduction de cette émission des points de vue et la présence de certaines personnes dans nos studios pour exprimer ces points de vue. Donc je vous propose d'entendre celui d'Asma Aloui qui a choisi de nous parler de la précarité.
La précarité, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est en situation de précarité. La précarité peut toucher tout le monde, qu'on soit pauvre ou pas. Elle peut toucher les entreprises qui sont fragiles, les gens qui n'ont pas d'emploi ou du mal à en trouver. Les familles qui sont en difficulté familiale, les réfugiés qui fuient leur pays en guerre ou qui sont en situation précaire sociale. Ça peut toucher même les gens riches et célèbres. Ils peuvent tout perdre du jour au lendemain, personne n'est à l'abri. L'État a mis en place pour aider les personnes précaires le RSA, qui permet aux personnes d'exister. C'est important pour eux qui se sentent pas oublié et se tenu par l'État. La banque alimentaire est aussi une aide de l'État pour aider les différentes associations privées pour partager les aliments, les locaux et les transports. Les associations privées comme le Resto du Cœur, la Croix-Rouge, la banque alimentaire permettent d'aider ces personnes dans leur vie quotidienne. Même avec le RSA, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ces personnes peuvent se sentir quand même exclues de la société, car ils ont honte de leur situation, ils n'osent pas en parler. Ils se sentent humiliés, plus bas que terre, de ne pas être arrivés à remonter la pente et se referment sur eux-mêmes. Ils deviennent fous. La précarité reste un sujet tabou et difficile, mais pourtant, c'est une situation à traiter d'urgence.
Oui, merci Asma Aloui pour ce point de vue et je précise simplement que Asma Aloui est membre justement des percussions de Tréfort et qu'il y a un atelier d'écriture et aussi autour de ses billets d'humeur dont le suivi est assuré par Jean-Pierre Barbosa, qui est l'éducateur qui accompagne aussi ses musiciens. Donc voilà, c'était notre premier point de vue et maintenant j'ai le plaisir aussi d'accueillir à nouveau, il y a un petit moment qu'on ne s'était pas eu au téléphone et vu, nous sommes maintenant en liaison téléphonique avec Priva et notamment donc dans l'Ardèche bien sûr et avec l'équipe qui élabore le journal de l'écho de la Réhab au sein de l'hôpital Sainte-Marie à Priva et je pense que normalement nous devrions avoir en ligne Guillaume Jor et Agnès Perrière. Allô, allô.
Oui, c'est ça. Bonjour Alain.
Bonjour Guillaume, ravi de te réentendre en tout cas.
Bah, Ravi également, oui.
Voilà, et puis ravi justement de pouvoir faire écho à nouveau du travail qui est mené par toi et aussi par toute l'équipe des patients et résidents de l'hôpital autour de ce journal de la Réhab. Alors peut-être qu'on pourrait faire ainsi, Guillaume, peut-être de resituer un petit peu pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que justement ce journal de l'écho de la Réhab ?
Eh bien, l'écho de la Réhab, c'est un journal qui a été créé au sein du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital Sainte-Marie, il y a 6 ans et demi, 7 ans maintenant. Et c'est un journal dont la vocation est de donner la parole à des personnes qui ne sont d'ordinaire pas entendues, et pour redonner une place dans la société à chacun, et pour essayer de déstigmatiser, on peut le dire comme ça, la
Ouais, tout à fait. Et ça, c'est voilà une activité. Ça fait combien de temps à peu près, la Guillaume, là maintenant qu'elle est en place?
Ça fait 6 ans et demi à peu près, 7 ans, et demi. Bientôt.
Ouais, et est-ce qu'on peut...
Nous sommes en train de sortir le
20e
numéro là, qui doit sortir cette semaine normalement. Donc,
voilà, c'est vrai que ça tombait bien de pouvoir effectivement faire écho au sein de l'émission de Résonance de cette toute nouvelle prochaine parution. Est-ce que ça a été aussi, Guillaume, facile, je dirais, d'installer cette présence? Parce que là, maintenant, il y a une présence installée, elle est attendue aussi, chacune des éditions sont attendues. Est-ce que ça a été facile, en tout cas, de mettre en œuvre aussi ce journal au sein de l'hôpital?
Alors, ça a été facile, oui et non. C'est vrai que je t'expliquais que la volonté de déstigmatiser était présente, mais ça reste avant tout un moyen pour nous de communication, d'expression, de création, et quelque chose qui est vraiment attendu par tout le monde. Hein. C'est des temps qui sont vraiment très forts et que l'on peut partager deux fois par semaine, dans deux grands temps de rencontre par semaine. Je vois Christophe là, qui est avec nous, qui fait oui de la tête. Hein.
Bien sûr.
Et donc voilà, ces temps-là sont vraiment très forts, et je crois, on en reparlait ce matin pendant l'atelier, il y a vraiment quelque chose d'authentique dans l'écriture des personnes, des écrivains du journal, je crois que c'est cette authenticité aussi qui résonne en chacun de nous, et qui a résonné dans le fait que le journal a de fait pris une place. Il n'y a pas
d'ambiguïté.
Il n'y a pas d'ambiguïté, et puis il n'y a pas de volonté de revendiquer pour la revendication.
C'est ça.
On est vraiment dans l'expression de chacun. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait que ça a pu marcher. Alors après, est-ce que ça a été facile? Non, bien sûr que
j'imagine.
Non, parce que c'est un travail de longue haleine, hein, où petit à petit ça avance. Mais c'est vrai que dans le même temps, très régulièrement, ça avance. Il y a des nouveautés, on va vers. J'ai l'impression qu'on va tout le temps vers du mieux. Donc j'imagine que c'est positif.
Complètement. Donc on peut dire que dans le journal, on va y retrouver, comme on commençait de le dire, il y a des écrits personnels, mais il y a aussi des fois de la poésie, des références aussi, des textes libres, des témoignages, des lettres ouvertes. Il est constitué peut-être un peu en quelques mots, Guillaume, et puis je sais qu'il y a quelques personnes de l'équipe autour de vous, et bien sûr on pourra échanger avec elles dans quelques instants. Comment ça s'organise finalement, une édition, la programmation du contenu d'un journal de la Réhab? Est-ce que c'est une réunion de l'équipe, on choisit des thèmes, est-ce que certains ont déjà des idées et du coup les confrontent? Comment ça se passe un petit peu?
Alors on travaille à chaque numéro sur un dossier spécial, donc c'est un thème que l'on décide de travailler, d'approfondir un peu plus. Là dans le prochain numéro qui sort donc cette semaine, le numéro 20, le thème c'est libre encore. Ces thèmes là ce sont des choses qui émergent au fur et à mesure des discussions du groupe, et puis à un moment il y a quelque chose qui fait je sais pas comment dire,
qui s'impose finalement.
Un point de capiton qui arrive, quoi, voilà. Donc ça on dit, c'est formalisé, ouais, comme dit Christophe. et voilà, puis on se dit ce thème là on va le travailler sur le prochain numéro. Donc c'est 3-4 mois autour d'une thématique qui est présente, qui n'est pas imposée, puisque chacun est libre de s'exprimer sur le sujet qui l'intéresse le plus. Mais c'est un peu ce qui permet de structurer en partie le journal.
Alors comme Christophe est à vos côtés, peut-être, qui est d'autre encore à vos côtés, Guillaume?
Alors donc j'avais Agnès, ma collègue, et Christophe, oui. Je présente dans l'ordre, Christelle et Jean-Paul qui sont présents.
Alors est-ce que Christelle, Jean-Paul ou Christophe seraient prêts peut-être à nous faire entendre l'un de leurs écrits qui figurera dans la nouvelle parution de l'Écho de la Réhab?
Je vais te passer Christelle, justement, qui a écrit un texte sur ce que ça fait. Bah, je pense que ça retranscrit bien ce qui se passe, le processus qui est à l'œuvre chez les personnes qui écrivent dans le journal. Je te la passe.
Très bien. Bien, on accueille Christelle avec grand plaisir, là aussi avec voilà, sa propre parole et son avis sur justement comment les choses se passent dans l'Écho de la Réhab.
Oui, bonjour.
Bonjour Christelle.
Moi, j'ai écrit ce que je ressentais, ce que me faisait le fait d'écrire dans l'Écho de la Réhab. Mmh. Alors, j'ai écrit quelque chose qui est paru dans le numéro. Je vais vous le lire.
Avec grand plaisir.
Donc, quand un numéro sort, quelque chose lâche en nous. On a transmis quelque chose de viscéral qui a été travaillé par l'écriture de façon à être partageable. On accouche de soi en quelque sorte. On accouche de ce qu'on a été pendant tout le temps de fabrication du journal. C'est un temps qui nous a construit aussi et transformé. On peut se séparer d'un écrit, d'une vérité sur soi, car cela va exister pour d'autres, les lecteurs. L'écriture donne une forme à l'informe de nos éprouvés. C'est difficile de s'en séparer, de se séparer de cet intime, mais c'est possible car cela continue à vivre en dehors de soi. C'est comme si on se pardonnait à soi-même, comme si on approuvait enfin qui on était. Quand un numéro sort, c'est donc une joie. Mais c'est aussi une angoisse de se séparer. Mais cette séparation nous entraîne vers autre chose. C'est parce que le texte appartient aux autres, aux lecteurs, qu'on peut passer à autre chose. C'est primordial de ne pas se scléroser. Le journal est une création artistique. On crée autant pour soi que pour les autres. L'important est au-delà du jugement. L'important, c'est qu'il y ait un autre qui reçoive ce qu'on fait. Voilà.
Merci.
C'était un peu difficile pour moi de le lire parce que...
Pas de souci, Christelle.
Effectivement, c'est très remuant tout,
bien
tout
sûr.
Ce qu'on peut lâcher comme angoisse, comme sentiment positif et négatif parfois.
Bien sûr.
Voilà, des fois on est un peu à fleur de peau, effectivement.
Mais c'est un plaisir, et c'est d'abord de vous entendre. Merci aussi de nous livrer aussi ce ressenti. Et en même temps, je pense que c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, d'habitude, vous avez un grand nombre de lecteurs. Là, ce sont des auditeurs aussi qui partagent avec vous ce moment. Et je pense que là aussi, c'est très important de sentir toute l'importance de ce que c'est, de ce que ça remue et de ce que ça remoue, comme vous le souleviez, Christelle, très justement, dans le fait d'écrire, mais aussi dans le fait de dire, hein, et d'exprimer aux autres ses ressentis.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Oui, oui. Hein?
Super. Peut-être on peut poursuivre soit avec Guillaume ou avec Agnès, par exemple, pour qu'on puisse avoir un peu tous ceux et toutes celles qui participent. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour. Bonjour Alain.
Ravi aussi voilà, de s'entendre à nouveau et de voir toute cette vitalité qu'il y a aujourd'hui, j'irais même une vitalité grandissante donc au sein de l'équipe de la Réhab. Et alors je sais qu'en préparant un petit peu par mail, en tout cas avec Guillaume, on pourrait aussi dire qu'il y a des évolutions aussi en ce moment, enfin des envies nouvelles aussi pour toucher les gens, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que on pourrait peut-être en parler. À qui s'adresse finalement ce journal?
Oh, à qui s'adresse? Ben, j'allais dire à tout le monde.
Déjà.
À partir du moment où on est intéressé à partir du moment où on est traversé par des questions du sens de notre existence, voilà, des choses comme ça en fait.
Ouais.
Ce que disent les personnes qui écrivent au journal, c'est que eux ont, enfin je vais essayer de pas les trahir,
bien sûr,
voilà, ils disent que eux ont la nécessité, l'obligation en fait de réfléchir à ce qu'ils font de leur existence, et qu'en fait c'est une manière effectivement de le faire un peu pour les autres, ceux qui sont pris dans des rythmes qui les éloignent un peu de ce qu'ils sont en fait, voilà. Quelque chose comme ça en fait, voilà.
C'est effectivement important. Et petit à petit, il y a un nombre de lecteurs qui s'agrandit d'année en année.
Ah oui, tout à fait. Alors c'est vrai, jusqu'à maintenant, là on tire le numéro à 500 exemplaires. Mais
ce qui est déjà important.
Et oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'on n'envoie pas de manière systématique. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure des rencontres. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens. Et puis le bouche à oreille où des gens demandent à la voir, mais on n'a pas fait de publicité jusqu'à maintenant.
C'est ça, c'est le bouche à oreille principalement qui fait que s'est constitué cet ensemble de lecteurs attentifs maintenant.
Ben oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on a d'autres projets puisqu'il prend un peu plus, j'allais dire consistance. Dans le sens de la structure, en fait, pas au niveau des écrits, parce que ça a toujours été très fort, mais au niveau de la structure. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on l'imprime maintenant pour la première fois à l'extérieur, donc aux imprimeries Fonbon, à Aubenas, donc pour nous, c'est vraiment quelque chose
Ça devient un plus, en fait, effectivement.
Jusqu'à maintenant, c'était de l'artisanat, on le faisait sur les photocopieuses, on agrafait à la main, enfin bon. Ça crée une ambiance en même temps.
Bien sûr.
Mais là
ça lui donne une autre dimension, quoi, effectivement.
Oui, voilà, tout à fait. Puis je pense que ça sera encore plus beau, puisque ça sera coupé correctement. Enfin, ça devrait être pas mal du tout. Et puis on va le vendre. C'est notre directeur donc qui souhaite que ça se passe comme ça. Et puis je pense qu'en fait, la plupart des rédacteurs sont plutôt contents qu'il y ait possibilité de le vendre.
Ouais.
Et puis donc, tout ce qui va avec, c'est-à-dire sûrement un site internet, une page Facebook. Enfin voilà, on a des projets.
Ah oui, c'est vraiment une autre dimension de communication.
Voilà, c'est ça. Chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant.
Ça
restait, intimiste. Bon, à 500, on n'est plus tout à fait dans l'intime, mais néanmoins, ça restait quand même de bouche à oreille. Et du coup, c'est vrai que là, ça prend un tournant. Mais c'est vrai que de toute manière, à chaque fois, à chaque numéro, il s'est passé des choses différentes. Donc, c'est pas un projet de départ. En fait, c'est une évolution comme ça qui se fait de manière, naturelle, quoi.
C'est ça. Donc du coup, peut-être qu'on peut indiquer à nos auditeurs, en tout cas pour ceux et celles qui souhaiteraient à ce moment-là pouvoir découvrir, voire peut-être aussi s'abonner à l'écho de la Réhab, comment pourrait-il faire, Agnès, de ce fait-là?
Par mail. Il faut qu'ils aient l'adresse mail qui est un peu longue. C'est possible de la donner, et puis on a un numéro de téléphone, le secrétariat. C'est vrai que les gens peuvent aussi appeler le secrétariat en disant on aimerait bien connaître ce que vous faites, et puis il n'y a pas de souci. Donc en fait le numéro du secrétariat, c'est 04 75 20 15 60.
Voilà, qui est faite, chers auditeurs, ceux et celles qui souhaiteraient pouvoir se plonger de manière plus conséquente dans ce journal. Vous pouvez appeler le numéro de téléphone indiqué par Agnès, et là on vous donnera toutes les modalités pour pouvoir recevoir les publications de l'écho de la Réhab. Alors est-ce que peut-être, Agnès, on aurait soit Jean-Paul ou Christophe qui auraient envie aussi de nous faire part d'un de leurs écrits qui paraît dans cette prochaine parution de la semaine?
Alors, je les interroge du regard. qu'est-ce qui se prépare? Donc, Guillaume est en train de chercher un texte.
Vous voyez, chers auditeurs, ça se construit aussi en direct.
C'est ça, c'est... un petit peu émotionnant. Enfin.
Bien sûr, bien sûr.
Donc,
mais aussi, on est dans l'intimité de ce studio, puis en même temps aussi de l'intimité de tous les auditeurs qui, je pense, aussi aiment aussi dans cette émission ce rapport aussi des fois de proximité avec ceux et celles que nous accueillons. Donc, en toute voilà, en toute simplicité, on sera très heureux de pouvoir entendre soit la parole de Christophe, voilà, ou de Jean-Paul.
Alors, Jean-Paul, est-ce que vous seriez d'accord pour lire ce texte que vous avez écrit ? Oui, je vous passe le téléphone. Voilà.
Merci,
Jean-Paul,
Agnès.
Alors, hein.
Très heureux d'accueillir Jean-Paul.
Bonjour.
Bonjour, Jean-Paul. Bienvenue Jean-Paul dans cette émission.
Merci beaucoup. Élection libre de ce journal, un peu à l'origine de sa création. Libertaire et fier de l'être. Être libre, seul, aucun intérêt. Le travail, c'est la vie. Tout notre être travaille. Attendez.
Allez-y, prenez le temps, Jean-Paul.
Oui, c'est une question de vue, j'ai pas mes lunettes.
Ah, c'est vrai que sans les lunettes, c'est un petit peu plus compliqué. Je
si
vous le conseille.
Si vous voulez, je vous résume ma pensée par une chanson de Johnny que j'adore, et qui concerne la société dans laquelle on vit.
Allez-y, allez-y, Jean-Paul.
Allumez le feu, allumez le feu, faire danser les diables et les dieux. Je pense que s'il y a un changement,
ouais,
c'est pas avec ce que nous propose M. Macron qui est réchauffé de 59 ans, c'est pas avec du vieux qu'on fait du neuf. Et je pense que beaucoup de Français sont très déçus par cette nouvelle politique.
Voilà, c'était le point de vue de Jean-Paul et de sa réflexion sur voilà, notre réalité quotidienne, comme nous la percevons au fur et à mesure de ces jours où voilà, des changements, des choses se passent. Et ça, c'est le regard de Jean-Paul. C'est important. Merci aussi, Jean-Paul, d'exprimer bon, cela.
Merci de m'avoir écouté.
Avec grand plaisir. Guillaume, voilà, peut-être si on peut vous retrouver.
Au revoir.
Voilà, au revoir, Jean-Paul. Et à très bientôt, en tout cas.
Oui.
Voilà, on va arriver au terme un petit peu de ce petit moment dans notre émission. Donc la parution, pour en reparler, elle est cette semaine de l'écho de la Réhab.
Oui, voilà, donc le document informatique, on l'a voilà. Transmis il y a un peu plus d'une semaine à l'imprimeur. Donc là, on attend d'être livré. C'est vrai qu'on va recevoir d'un seul coup les 500 numéros, c'est un peu...
Ça va être une première très
et
importante.
Voilà, hein, une première qu'on attend vraiment tous.
Bon. Merci beaucoup, Guillaume. On reviendra vers vous prochainement pour en reparler, bien sûr. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus les uns les autres à nous interpeller, parce que dans cette émission, comme on le dit, c'est que tout le monde puisse avoir la parole, et notamment ceux et celles qui ne l'ont que très peu sur l'espace public. Donc, c'est vraiment une priorité pour nous. Donc, ce sera un très grand plaisir, hein, de pouvoir avoir des nouvelles prochainement de l'équipe du journal de la Réhab. Alors, plein de bonnes choses, belle réception de cette nouvelle parution, et puis à très bientôt, Guillaume.
À très bientôt, merci Alain.
Résonance sur Radio B, il n'y a rien de fixe dans les manières, le multiple, il faut le faire. Et là, nous venons d'entendre encore un extrait de Del Color a la Materia, composé en 2010 et imaginé par le compositeur argentin Martin Matalon pour 6 percussions, 2 pianos et dispositifs électroniques, interprété par l'ensemble Batida, piano et percussions, avec Alexandra Bellon, Anne Brisset, Jeanne Larouturou à la percussion, ensuite Viva Sanchez et Raphaël Krajka au piano. Voilà un ensemble d'ailleurs que je vous invite à suivre parce que c'est un merveilleux ensemble de musique de chambre que cet ensemble Batida qui se consacre à toute la diversité de la musique contemporaine. Et là, c'était l'interlude numéro 3 que nous avons pu entendre ensemble. On vient d'entendre des points de vue, nous avons aussi entendu celui de Asma Louis tout à l'heure. Alors je vous propose de poursuivre avec deux autres points de vue, exprimés l'un par Mathieu Convert qui va nous parler de la nature, et puis le second par Dominique Bataillard qui lui nous racontera en tout cas son ressenti vis-à-vis de sa rencontre, et c'est intitulé même comme ceci, « Ma rencontre avec la Chine ». Mais tout d'abord Mathieu Convert et la nature.
J'aime respirer la nature quand le printemps arrive tranquillement tout en voyant les petites fleurs qui poussent dans les prés. On voit les bourgeons des arbres qui se développent au fil des jours. J'entends les oiseaux qui chante quand le jour se lève au petit matin, avec un ciel bien dégagé. Je regarde les couleurs vives de chaque végétaux qui ouvre la nature agréable, calme. J'adore marcher sur une belle nature riche et pleine d'énergie de liberté. Je sens un parfum agréable qui fait revivre la nature printanière comme la lavande, les jonquilles, les marguerites, etc. La nature se prépare calmement dans les beaux jours qui viennent sans se précipiter et faire renaître comme chaque année les saisons, les variétés des plantes et les espèces végétales qui repartent du sol. C'est comme quoi la nature est belle. J'aime la nature, mais elle a besoin de nous pour l'entretenir. Dans le monde entier, les gens ne la respectent pas. Nous sommes malhonnêtes avec elle. Dans la nature, on y trouve des déchets de partout. Des ordures ménagères. La pollution qui s'étend. Les usines chimiques qui dégagent les fumées dans l'air pur. Sur la plage, on trouve du pétrole. On trouve aussi au fond de l'océan des vieilles choses qui ont été déposées et qui y restent. On voit des grosses centrales nucléaires qui étouffent la nature. Je vois que la planète se réchauffe de plus en plus. La nature a du mal à s'entretenir toute seule. C'est à nous de l'aider. La nature n'a pas besoin de produits dangereux qui détruisent le sol. On doit se mettre tous ensemble pour réfléchir sur l'avenir de la nature et dire non aux produits chimiques, non aux gaz de schiste, non aux produits dangereux. Oui aux balades de la nature, oui à l'environnement, oui à la marche, oui aux oiseaux qui chantent, oui à la végétation qui pousse, oui aux belles saisons, oui aux variétés des plantes, oui au développement durable, oui à l'énergie renouvelable.
Merci Mathieu. Et je vous propose tout de suite d'entendre son regard sur la Chine par Dominique Bataillard.
Ma rencontre de la Chine. Je trouve que la Chine est un très beau pays et très différent de chez nous. Dans les quartiers riches, j'ai eu des beaux bâtiments qui sont aussi grands que la Tour Eiffel à Paris. Ce sont de différentes tailles et de grosseurs. J'ai eu des gratte-ciel ronds, carrés, octogonaux, en forme bizarre, de ponts, en forme de décapsuleurs. Les toits sont éclairés la nuit de différentes couleurs. J'ai eu des immenses bâtiments, avec des grands écrans télé, publicitaires, ou de plusieurs étages. J'ai vu qu'ils mettaient des bambous chez eux, sur terrasse, et aussi de la verdure contre les murs. J'ai vu des plates-bandes de fleurs dans les villes et le long des routes. Ils font aussi des taches de fleurs avec des variétés différentes pour que l'on puisse les lire. Ils utilisent les mêmes fleurs que chez nous. Les œillets d'Inde, bégonia, salvia, géranium lierre et zonal. Pétunia, surfinia et quelques fuchsia. Je n'ai pas vu de fleurs que je ne connaissais pas. Dans certains endroits, ils ne mettaient pas de terre dans les bacs car il y avait des pots dedans. Ils n'ont pas d'arrosage automatique dans les plates-bandes et dans les jardinières comme chez nous, car ils ont assez du monde pour entretenir les massifs. J'ai vu des parcs dans les villes. Dedans, il y avait du monde qui joue de la musique, qui chante, qui joue aux cartes, aux dominos, se promènent, dansent, font de la gym pour entretenir leur corps. Ils écrivent leurs paroles sur le sol avec de l'encre noire, avec un grand pinceau. On a du mal à comprendre ce qu'ils nous disent. Je trouve que les Chinois ont des symboles et une écriture pas facile à déchiffrer pour nous, les Européens. Dans les quartiers pauvres, j'ai vu des gens mal habillés. Ils ont peu d'argent pour vivre par semaine. Il y a des WC publics dans les rues, car les gens n'ont pas de WC chez eux. Dans les rues, il y a des odeurs agréables et désagréables. Devant chez eux, ils n'ont pas de fleurs, à part quelques rosiers par endroit. À côté d'une rivière sale et polluée, j'ai eu des jardins potagers où ils plantent plusieurs choses, comme du maïs, tomates, choux, carottes. Les gens travaillent sur les trottoirs, vendent des animaux, des insectes, de la nourriture, des bijoux, et ils vendent des vélos à trois roues, en moteur. J'ai vu des garages qui entreposent des tableaux de bord et de diverses choses, empilés sur les trottoirs pour envoyer dans les usines pour fabriquer des voitures. Je pense que c'est un pays à visiter au moins une fois dans sa vie. Il y a plein d'endroits riches à visiter. C'est tellement grand que je n'ai pas pu tout voir.
Merci Dominique Bataillard. Et je rappelle donc que Mathieu Convert et Dominique Bataillard font partie des Percussions de Treffort. Et cela fait partie aussi de leur travail de nous proposer des billets d'humeur. Et nous continuons notre émission avec notre prochaine invitée bientôt au téléphone. Et en introduction, voici... elle nous attire vers le manger. C'était toute la thématique du projet radiophonique à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon.
Au fil des voix, l'émission de toutes les voix.
Au fil des voix. Au fil des voix.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Une image par rapport à manger.
Là, tout de suite, maintenant, vu qu'on a parlé tout à l'heure de manger avec les mains, je pense à un bon plat de couscous.
Des frites bien grasses, bordel.
Partage, saveur, couleur.
Une charlotte aux amandes qu'on mange à chaque Noël et que je vais manger dans 4 jours.
L'instinct, en fait, c'est la bûche qu'on va commencer à déguster dans peu de temps. Ou...
Des pommes, j'en mange 6 à 8 par jour.
C'est pas... Allez. À cause du péché originel, quand même.
Ah bah non.
Alors Jean-Pierre, t'en es où de ta sauce là?
Tu traînes, ça va pas.
Elle est pas cuite, la sauce là. Chaud devant là.
Oui chef.
Dans manger, il y a quand même l'idée, il y a aussi que le côté dévorer. Mais du coup, l'image que j'ai, c'est une image horrible, qui est un tableau de Goya, où on voit Saturne mangeant ses enfants. C'est très gay, hein. Je ne ferai pas de psychanalyse, je vous remercie.
Mais dans les contes pour enfants.
Moi, mon alimentation, elle est coup de cœur, elle n'est pas trop équilibrée. Elle est plutôt le moment où j'ai envie de manger ça, je le mange. Mais je suis plutôt dans le partage et dans les saveurs, dans les couleurs, dans les mélanges. De tout ce qui peut être attrait à la cuisine. Et ça fait que bon, j'essaye plus ou moins d'équilibrer, mais j'y arrive pas trop. Voilà, sinon ouais, j'aime partager, j'aime donner de mon temps, de mon savoir à mes amis, à ma famille. Et voilà, c'est ce que j'aime dans la cuisine, c'est ça surtout. Et après bon, on essaye de faire avec le temps qui court, d'être dans l'équilibre, dans le respect de tout ce qui peut entourer la nourriture.
J'essaye d'avoir une alimentation assez équilibrée et assez saine, aussi pas trop onéreuse. Maintenant, je vis seule, alors il est difficile quand on est seul de varier beaucoup. Mais enfin, j'essaye le plus possible, quoi.
Des fois, je peux me laisser aller à manger un peu n'importe quoi. Et d'autres fois, je me prends en main, je me dis non, 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 là, c'est... il faut que tu te fasses quelque chose d'équilibré. Et là, j'y mets vraiment les formes. Voilà, donc c'est une relation ambivalente à la nourriture.
N'oublie pas, tu les plonges dans le...
Manger des légumes, pour moi, c'est très compliqué d'en faire puisque je suis saine, en fait. Donc, du coup, c'est pas une excuse. Hein. Mais même depuis toute petite, je cours pas après les légumes. Ça me force, hein, je me force un peu à en manger pour que, voilà. Sinon, j'essaye le plus possible d'améliorer mes repas, ne pas manger toujours les mêmes choses, d'essayer de pas trop manger sur l'extérieur. Et puis après, c'est le plaisir aussi de manger.
Bonjour, Cécilia Devarine.
Bonjour Alain.
Bonjour, ravi de vous avoir à nouveau donc dans cette émission de Résonance et on vient d'entendre une partie du générique de cette nouvelle série de ce cycle hein, même on peut parler un petit peu de ça autour de la notion de manger on peut dire peut-être rapidement Cécilia que cette continuité radiophonique elle s'inscrit déjà dans une première expérience à la suite de cette expérience qui avait été menée justement avec Véronique Macari. On avait d'ailleurs le grand plaisir d'accueillir ces créations radiophoniques dans notre émission.
Oui, et en 2015, je crois.
Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, en réalité, suite à ce travail-là, il y a des envies de continuer, de poursuivre. Alors, Véronique Macari n'est plus à vos côtés, mais le travail se poursuit.
Absolument. Alors, en fait, à la fin du travail avec Véronique Macari, quand on a écouté les montages assez extraordinaires qu'elle avait fait à partir des différents ateliers, le groupe lui-même s'était assez librement exprimé sur à la fois ce qui lui avait plu, ce qui lui avait pas plu, et certains avaient pointé le fait que à la fois c'était remarquable comme travail, que ça leur plaisait beaucoup, et en même temps qu'on ne se reconnaissait pas complètement. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait nous, ce qui était tout à fait normal, c'était la création de Véronique, et c'était bien ça qu'on lui avait demandé. Mais du coup, on est parti de là, de cette question-là, et on a essayé du coup de tendre vers chaque fois plus d'autonomie, en fait, dans le travail radiophonique qu'on mène. Voilà, c'est-à-dire comment on pourrait arriver à faire un travail radiophonique qui nous ressemble, effectivement, quelque part à la jonction entre l'hospitalisation et l'extérieur, hein, et la vie dans la ville. Et voilà, et donc du coup, on a continué à travailler en essayant de construire une nouvelle méthode qui n'était plus celle des ateliers tels que les avait menés Véronique, mais qui est quelque chose plus au long cours, où on travaille quelquefois jusqu'à 6 mois, bon alors pas toutes les semaines et pas tous les jours, mais régulièrement on se retrouve autour d'un thème qu'on choisit en début de cycle, puis on essaye de voir un petit peu les différents types de reportages, d'interviews, de lectures, de choix musicaux qu'on peut faire autour de ce thème, et après on prend les rendez-vous, on part en ville faire provoquer les rencontres, en ville ou dans l'hôpital, enfin voilà.
Là, il y a quelque chose d'une dynamique, on va dire, encore différente, et effectivement, qui met encore un peu plus en avant, effectivement, l'autonomie de ceux et de celles qui participent à ce projet.
Voilà, exactement. Et puis, le groupe qu'on forme à chaque cycle, parce qu'en fait, à chaque début de cycle, en fait, il y a des gens qui se rassemblent, tous à peu près motivés par la même chose, c'est-à-dire faire de la radio. Et c'est ça qui nous relie, en fait, comme des amateurs de radio.
C'est ça.
Et puis, à partir de ce groupe-là, on commence à composer quelque chose. Alors, à un moment donné, on a quand même besoin d'un vrai professionnel du son.
Aussi, pour vous aider à monter les choses.
Voilà, parce qu'on a cru à un moment donné qu'on pourrait aller jusque-là, mais là, pour l'instant, on n'en a pas la possibilité, la capacité. C'est-à-dire qu'on est trop nombreux autour de l'ordinateur le jour de montage.
C'est ça.
On ne sait pas forcément très bien faire, etc. Voilà, donc du coup, là, on confie à la fin de notre cycle de... on va dire de récolte, hein. On récolte un petit peu des éléments, et puis à la fin, on confie ces éléments à un monteur, à un professionnel du son, hein, même plus qu'un monteur, c'est un musicien lui-même, mais qui là accepte d'être dans un rôle vraiment, il est au service de notre projet, en quelque sorte, et c'est lui qui a fait le montage qu'on vient d'entendre.
C'est ça. Alors peut-être qu'on peut citer son nom d'ailleurs à ce monteur.
Raphaël Cordret.
Voilà, Raphaël Cordret, donc qui est une pièce ouvrière aussi importante à un moment donné de toute cette expérience, puisque effectivement, il va préparer la mise en onde, la mise en forme en tout cas, de ce que vous aurez déterminé en tout cas, et ce que vous aurez choisi de mettre dans chacun de ces moments. Alors il y a une thématique, effectivement, on l'a entendu dans le générique, hein, là c'était la nourriture, le manger.
Exactement. Hein, on a tourné un peu autour des mots alimentation, se nourrir, manger, et on a gardé manger, verbe à l'infinitif, avec un point d'exclamation même.
C'est ça.
dans toute la dimension de ce verbe et tout ce que ça interroge dans notre quotidien, aussi bien que dans la question du plaisir, de l'autre que l'on invite, de la grande distribution d'aujourd'hui, du fast-food et du low-food, slow-food, voilà.
Et c'est sûr que ça a dû re-questionner aussi un petit peu pour chacun son rapport aussi, bien évidemment, à l'alimentation, à ses goûts, à comment il percevait ce moment qui est important. Nous sommes justement entre la pause déjeuner, là, actuellement. Et donc, pour chacun, c'est aussi un rapport particulier, justement, ce rapport à l'alimentation, à la nourriture.
Exactement. Alors, c'était d'ailleurs dans la bouche de Marie-Françoise, qui est une des plus vieille participante de notre projet radiophonique. Quand je dis plus vieille, c'est pas son âge, c'est une des plus anciennes participantes de notre atelier radiophonique, et qui c'est elle qui a proposé ce thème, parce que s'il y avait quelque chose qui l'a turlupiné, en quelque sorte qui l'a tracassé, c'était comment chacun aujourd'hui se débrouille dans un monde où finalement on n'arrête pas de nous angoisser sur ce qu'on mange. À la fois on mange toujours trop, on mange toujours mal, on nous donne à manger des choses qui sont pas bonnes pour notre organisme et pourtant on nous les vend, on nous fait des magnifiques publicités pour McDonald's, mais après on nous dit qu'il ne faudrait pas en manger. Enfin voilà. Donc cette espèce de paradoxe permanent où on est pris toujours un peu en faute, on a toujours l'impression de ne pas faire ce qu'il faudrait faire.
C'est ça.
Voilà, donc du coup on est parti un petit peu de ce doute-là que tout le monde partageait autour de la table. Et effectivement, à chaque fois, le thème qu'on choisit est toujours un thème qui va nous interroger culturellement, artistiquement, mais aussi bien sûr quotidiennement, quoi.
Et est-ce que ça veut dire, Cécilia de Varine, que ce thème de manger va donner lieu à la réalisation de différents moments radiophoniques ?
Oui, alors là, on a fait 7 montages, 7 montages différents, 7, comment on pourrait dire, 7 morceaux différents.
Oui,
On a à la fois été rencontrés des cuisiniers professionnels, on a été rencontrés notamment des chefs étoilés.
Ah, ça a dû être passionnant, ça aussi.
Alors, ça a été tout à fait passionnant. C'est vraiment, en plus, ça a été des très beaux cadeaux, je trouve, qu'ils nous ont fait, parce qu'ils ont accueilli une petite délégation de notre groupe à chaque fois. Donc, Anthony Bonnet et puis Mathieu Vianney, qui sont deux des grands chefs lyonnais d'aujourd'hui.
Ouais.
L'un travaillant à la Cour des Loges et l'autre pour la Mère Brasier, enfin le restaurant
Effectivement,
La Mère Brasier.
Deux endroits de renommée gastronomique.
Exactement, et ça, en fait, certains membres de notre groupe, et notamment un des membres très actifs aujourd'hui, Yvan Caillot, tenait beaucoup à ce qu'on aille du côté de la gastronomie. Quand on est à Lyon, on ne peut pas tellement parler de nourriture et de manger sans ça. Et donc, ils nous ont accueillis, enfin, nous, moi, je n'y étais pas, mais ils ont accueilli donc une petite délégation, chacun. Et puis, après ça, on est allé rencontrer, alors totalement à l'autre bout de la question de la cuisine professionnelle, les cuisiniers de l'hôpital, ceux qui font au quotidien à manger pour à la fois tous les patients de l'hôpital et tous les salariés.
Ça aussi, ça a dû être quelque chose de très important dans la relation également.
Exactement, parce que c'était vraiment, là, je crois qu'avec ce thème de manger, on a été encore plus du côté des coulisses, en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire ceux que d'habitude on ne voit pas, ceux que d'habitude on n'entend pas, et qui là, tout d'un coup, on a été les rencontrer et on s'est rendu compte à quel point, que ce soit le grand chef étoilé ou le cuisinier d'une restauration collective, les gens sont extrêmement attentifs à ce qu'ils font, à la qualité de ce qu'ils font et à leurs gestes dans le bien-être de ceux qui vont manger ce qu'ils préparent.
Donc du coup, ça nous fait penser que toute cette série doit être complètement passionnante à écouter. Alors on peut rappeler aussi, Cécilia de Varine, qu'il y a un partenariat pour vous à Lyon avec Radio Pluriel, qui a déjà accueilli, si je ne me trompe pas, le 10 mai dernier, je crois, déjà des éléments de ce que vous avez réalisé. Et c'est déjà un premier partenariat précieux pour faire découvrir à un plus large public aussi, hein.
Alors voilà, tout à fait. Le partenariat avec Radio Pluriel, ça a été dès le départ, dès le projet avec Véronique Macari, c'est eux qui ont accepté de nous accueillir, en fait. Et à chaque fois qu'on a terminé un thème, ils nous accueillent dans leur émission Vivre Ensemble, où Patrice Berger, l'animateur de l'émission, présente, en fait, nous présente, nous interroge sur le travail mené en direct, et en même temps, on passe les différents montages qui ont été réalisés à partir de notre collecte.
Alors, ce que l'on peut se dire, parce qu'on arrive un petit peu sur la fin de notre émission, là, Cécilia, on n'aura peut-être pas le temps de penser l'extrait dont on pensait, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans chacune de nos prochaines émissions, nous aurons le loisir, en tout cas, de pouvoir faire découvrir aussi à nos auditeurs de Radio B, eh bien aussi toute cette richesse de réflexion, toutes ces réalisations aussi de qualité au niveau sonore, imagination aussi de ce qu'aura suscité, effectivement, cette envie de manger, de l'alimentation et de notre rapport. Alors, que ce soit avec des chefs, comme vous le souleviez, étoilés, en tout cas de haute gastronomie, ou alors de découvrir aussi les coulisses d'un restaurant, d'une collectivité, et tout ce que ça amène comme réflexion aussi. Et puis peut-être pour de découvertes de relations nouvelles entre ceux et celles qui se trouvent justement à ces endroits différents.
Exactement, tout à fait.
Bon, merci beaucoup alors Cécilia.
Bah, merci à vous et puis au plaisir d'une autre rencontre sur les ondes.
Ça c'est promis en tout cas.
À bientôt.
À très bientôt. Alain. Au revoir Cécilia. Voilà, chers auditeurs, on arrive bientôt à la fin de notre émission, mais nous avons encore, puisque c'est une émission autour des paroles différentes, des paroles plurielles, encore un point de vue à vous faire partager avant de nous quitter. Et cette fois-ci, c'est un autre musicien des percussions de très fort, c'est Christian Seux, qui va vous faire part de son point de vue.
La curiosité, c'est de pouvoir fourrer son nez de partout. Aux endroits autorisés et interdits, c'est comme un aimant qui nous attire. On dit bien que la curiosité est un vilain défaut, mais on ne peut pas parfois s'empêcher d'enfreindre les règles. D'aller ouvrir des portes ou découvrir derrière un autre univers, des pièces uniques, des endroits parfois privés, où on peut peut-être surpris par des propriétaires qui, au lieu de nous recevoir avec le fusil dans les mains, nous accueillent les bras ouverts et se transforment en guide. Pour nous faire découvrir des choses insolites que l'on n'aurait jamais imaginées. Je suis curieux de découvrir ce que je ne connais pas. Pour enrichir ma culture générale, la curiosité ne s'arrêtera jamais pour moi, car j'en ai jamais assez. Ça me fait avancer et parfois rêver. Plus je découvre, plus je me fais plaisir. Cela me fait voyager, changer mes habitudes et mes attitudes. La curiosité me fait voir aussi pas que de belles choses. Exemple, je suis allé en voyage et j'ai vu une famille qui vivait de façon très rudimentaire. Une toile en guise de maison. Ils étaient en dessous du seuil de pauvreté. Les enfants venaient mendier pour des stylos et des cahiers. Cela me fait comprendre qu'il y a de la misère et que nous ne sommes pas les plus malheureux et qu'il faut arrêter de me plaindre. En somme, la curiosité nous montre la médaille et aussi le revers de la médaille.
Voilà, chers auditeurs, nous sommes légèrement pile 14h sur Radio B, et donc il va falloir céder l'antenne, bien sûr, à la suite des émissions, et puis bien sûr que vous restiez attentifs à Radio B. Donc nous avons été très heureux de partager cette émission avec vous. C'est sur ces mots de Christian Seux que je vous quitte, simplement en vous disant que si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr postcaster la présente émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Voilà, vous savez que la présente émission est rediffusée vendredi prochain, mardi prochain et le vendredi d'après. Donc encore plein de loisirs également pour redécouvrir ou entendre cette émission. Que cette journée vous soit belle et douce, et surtout restez à l'écoute de Radio B.
Vous écoutez Radio B.